Voilà, je vous propose de poursuivre notre étude sur la série, sur l'épître aux Philippiens. Et comme ça a été dit, avec une petite digression, mais qui était bienvenue. Dimanche dernier, le texte qui était initialement prévu parlait de courir vers le but. Michel a préféré marcher. Je lui avais demandé de courir, mais finalement pas. Peut-être une question de génération, Michel, je ne sais pas. Excuse-moi. Mais je pense que c'était nécessaire de prendre le temps d'une balade avec Jésus, s'arrêter pour le reconnaître. Et le texte que nous allons prendre aujourd'hui va exactement de la continuité de ce que nous a partagé Michel. Merci pour ta digression, finalement. Saviez-vous que nous avons hérité, que l'Église primitive, enfin, hérité, je ne sais pas, mais nous avons le même défaut que l'Église primitive. On partage un défaut en commun. Et je crois qu'en 2000 ans d'histoire, il n'a pas été résolu. On a gardé la même forme des cultes, plus ou moins. La liturgie est la même, on a les mêmes éléments, mais il y a un défaut qui demeure. Lequel ? Les conflits. Et oui, il y a toujours des conflits, toujours des gens qui ne pensent pas comme nous. C'est bien dommage. Et même dans l'église de Philippe, il y avait quelques tensions. Et je vous propose de lire Philippiens 4, les versets 2 à 9. Paul dit « J'encourage Évodie » et j'encourage Saint-Tiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Finalement, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Oui, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Ce passage aurait été merveilleux s'il ne commençait pas avec un conflit. Vraisemblablement, il y a des tensions entre Évodie et Saint-Tiche. Les deux sont rappelés à vivre en plein accord dans le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux sœurs ? Alors, on ne sait pas. La nature du conflit ne nous est pas donnée. Paul est au courant qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être quelque chose d'assez grave pour qu'on lui le rapporte. Mais on n'en sait pas plus. On ne sait pas ce qui se passe du problème. Peut-être parce que finalement, le plus important, ce n'est pas tellement le problème, mais plutôt la résolution du problème. Quant aux deux femmes impliquées, Évodie et Saint-Tiche, on ne sait pas non plus grand-chose sur elles. Elles sont mentionnées nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Peut-être qu'elles étaient responsables de l'Église, on ne sait pas. Peut-être le conflit avait une nature à pouvoir déstabiliser aussi l'unité de l'Église. Tout ça, on ne peut que supposer. On ne sait pas. Mais ça m'avait l'air assez important pour que Paul en parle. Mais on sait quelque chose sur ce conflit quand même. On sait que Paul intervient dans le conflit. Il intervient, mais il ne prend pas parti. Il ne dit pas « tel est responsable, l'autre pas ». Dans le texte grec, l'encouragement à vivre en plein accord est adressé aux deux femmes. Pour chacune d'elles, le verbe « j'encourage » est utilisé. « J'encourage Évodie » et « j'encourage Saint-Tiche ». Le fait que Paul utilise le même verbe pour chacune d'elles les renvoie toutes deux à leur part de responsabilité. Toutes deux sont responsables de la gestion du conflit. Alors voilà que Paul a donné cette consigne, mais Paul leur donne aussi la direction pour régler leurs différends. Et cette direction pointe vers Christ. Vivre en plein accord dans le Seigneur. Vivre en plein accord dans le Seigneur, ce n'est pas trouver un compromis. Paul ne leur dit pas non plus d'être d'accord l'une avec l'autre, de partager les mêmes arguments. Paul ne dit pas non plus que l'une devrait gagner le débat et l'autre non. Paul dit à chacune d'elles de vivre en plein accord dans le Seigneur. Et il les renvoie chacune à leur attitude. D'ailleurs, la formule « vivre en plein accord dans le Seigneur » est une reprise de Philippiens 2, 5. En Philippiens 2, 5, c'est écrit « Ayez en vous les mêmes dispositions qui étaient en Jésus-Christ ». Le mot grec est le même. C'est le même verbe qui est utilisé. Pour parler des mêmes dispositions qui étaient en Christ et pour que ces deux sœurs puissent se réconcilier. En fait, Évodie et Saint-Tiche sont invités à avoir les mêmes dispositions qui étaient en Jésus. Et la dernière fois que j'ai parlé sur Philippiens, j'avais lu cet hymne qui parle de Christ. Je ne le relirai pas en entier, mais je vous lis volontiers les premiers versets. « Lui, qui était de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Telles sont les dispositions qui sont en Christ, et telles sont les dispositions envers lesquelles Évodie et Saint-Tiche sont appelés à évoluer. Quel exemple d'humilité, n'est-ce pas? Évodie et Saint-Tiche sont appelés à suivre cet exemple. En utilisant le même verbe, Paul les rappelle à la leçon du chapitre 2. Ça devait résonner assez fort dans leur tête. Plus que de trouver un compromis, un arrangement, chacune d'elles est appelée à abandonner son orgueil et à revêtir l'humilité. Chacune d'elles doit apprendre à cheminer avec l'autre. Et la semaine dernière, Michel nous a parlé de discuter. On échange des avis, on n'a pas besoin forcément d'être d'accord, mais on chemine ensemble. Et Évodie et Saint-Tiche sont invités à cheminer l'une avec l'autre. Alors, on va quand même se dire que le top du top, ça serait une église où tout le monde pense comme nous. Moi, ça me plairait bien d'un côté, mais moins de problèmes. Une église où tout le monde pense comme moi. Mais il y aurait un problème. Est-ce que l'église serait vraiment une occasion de grandir? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense même qu'au contraire, les relations sont des occasions rêvées pour nous faire grandir personnellement dans notre ressemblance à Christ. Même s'il y a des relations douloureuses, on n'enlève pas forcément la douleur qui a pu être causée. Il peut y avoir des cicatrices, mais les relations sont des occasions pour nous faire grandir, pour nous prendre sur notre chemin et nous faire grandir toujours plus dans notre ressemblance à Christ. En théologie, on utilise le terme sanctification. Les relations sont un moyen que Dieu a choisi pour nous faire grandir dans notre sanctification. Et je dirais même que les conflits font partie des moyens assez mystérieux que Dieu utilise finalement pour nous décentrer de nous-mêmes et pour nous recentrer sur lui. Ayez en vous les mêmes dispositions qui étaient en Christ. C'est ça, vivre en plein accord. Moi, quand je suis en conflit, j'ai tendance à avoir plutôt le sujet de discorde. Puis à formuler le conflit dans ma tête, disant, mais comment est-ce que je peux l'avoir, finalement ? Finalement, l'autre n'est qu'un adversaire. Il faut que je prenne le dessus sur lui. Il faut que j'aie raison. Mais ce matin, en lisant l'Épître aux Philippiens, je me dis que mes conflits, mes différents relationnels, sont finalement un moyen de revenir à l'essentiel. Avoir les mêmes dispositions qui étaient en Christ. Faire preuve d'humilité. Alors la théorie est évidente. La pratique l'est un peu moins. Et Paul parle d'un fidèle collègue qui peut être là pour aider Évodie et Saint-Tiche. Et Paul recommande à ce collègue d'aider, d'assister ces deux sœurs dans la résolution de leur conflit. « Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. Hein, » des fois, il y a un tel conflit, on ne se comprend plus, qu'il faut une tierce personne, un médiateur. Quelqu'un qui fasse un petit peu le lien. Ce qui me touche aussi dans cette recommandation, toi aussi mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi. Dans cette recommandation, on remarque que Paul n'hésite pas à dire du bien d'Évodie et Saint-Tiche. Il n'hésite pas à rappeler le rappel profond. Combattre pour l'Évangile. Au début, on a vu que Paul n'entrait pas du tout dans l'explication du conflit. On ne sait rien. Par contre, on sait que ses deux sœurs ont combattu pour l'Évangile à ses côtés. Paul, finalement, ne reste pas focalisé sur ce qui ne va pas, mais il relève le bien de ces personnes. Il y a un fond qui est bien dans ces personnes. Il y a juste un conflit. Mais leur mission est bonne. Alors voilà, Paul a traité ce sujet, ce conflit, a parlé d'Évodie et de Saint-Tiche. Maintenant, Paul revient à des instructions plus générales à l'ensemble de la communauté. Ce qui me frappe, c'est pourquoi est-ce qu'il met la résolution, les consignes pour régler ce conflit à ce moment-là ? Je ne sais pas. Mais je pense, et ça c'est une interprétation personnelle, c'est qu'il fallait d'abord régler ce conflit avant de poursuivre dans ses dernières recommandations. Avant d'aller plus loin dans le développement, c'était important maintenant de parler de ce conflit-là. Comme si la résolution du conflit devait être quelque chose de prioritaire. Alors Paul a donné ses instructions pour régler ce conflit, il a même demandé à quelqu'un de veiller sur ses deux sœurs, Évodie et Saint-Tiche. Et puis dès le verset 4, on voit un changement de ton assez marquant. Mais Paul s'adresse à nouveau à l'ensemble de la communauté où il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » On parle d'un conflit et finalement on est invité à la joie en une fraction de seconde. Et Paul le fait à deux reprises. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. » En une phrase, il utilise deux fois le même impératif. Ce n'est pas une proposition qu'il nous fait, c'est un impératif. Paul demande aux Philippiens de se réjouir. Alors comment vraiment comprendre se réjouir ? Réjouissez-vous. Paul mentionne une clé, c'est le terme « dans le Seigneur ». C'est ça le facteur touché. C'est ça le facteur déterminant de la réjouissance à laquelle Paul invite les Philippiens. Paul ramène les Philippiens à l'essentiel, à savoir Jésus-Christ. cette invitation à se réjouir dans le Seigneur est surtout un encouragement à persévérer dans notre foi. Et le terme « dans le Seigneur » était déjà utilisé juste avant pour qu'Évodie et Saint-Tiche règlent leurs problèmes, qu'elles vivent en plein accord dans le Seigneur. Et dans l'Épître aux Philippiens, c'est une vingtaine de fois que ce mot « dans le Seigneur » est utilisé. Tout revient se centrer sur Christ. La joie dont il est question au verset 4 est davantage spirituelle qu'émotionnelle. Ce n'est pas une joie qui est temporelle. Une joie qui viendrait, qui repartirait en fonction des circonstances. Paul ne parle pas d'une joie qui dépend de ce que nous traversons. Ce n'est pas une joie qui est dictée en fonction des circonstances que nous traversons, mais plutôt une joie de voir dans les circonstances que nous traversons, voir Christ agir. Une joie de voir dans les conflits l'occasion de voir Dieu agir. C'est un peu paradoxal parce que notre société de consommation actuelle nous invite à rechercher le bonheur immédiat et éphémère. Hein, les pubs ciblées sur Internet, ah ben tiens, ça j'en aurais besoin finalement. Un bonheur immédiat et éphémère. La joie en Christ, ce n'est pas forcément un bonheur immédiat et éphémère. On peut traverser par toutes sortes d'états, on peut vivre la tristesse, la douleur. Mais la joie en Christ, c'est être sur un chemin en sanctification. D'être sur le chemin de toujours plus ressembler à Christ. Même si notre présent peut être marqué par des difficultés, des incompréhensions, des souffrances, des conflits. Se réjouir en Christ et se souvenir de qui il est pour nous. Et persévérer à placer notre foi en lui. Et alors, comment se manifeste cette joie? Au verset 5, on lit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » De nouveau un impératif. C'est engageant cet épître quand même. De nouveau un impératif. Et il y a une suite logique. Alors que les Philippiens sont invités à se réjouir continuellement, à toujours plus placer leur foi en Christ, ce que les autres doivent voir, les autres à l'intérieur de l'Église, mais aussi à l'extérieur, c'est leur douceur. Et là, je comprends pourquoi Paul dit « mais c'est important de régler d'abord le conflit ». C'est difficile de montrer de la douceur à quelqu'un avec qui on est en conflit. D'abord régler le conflit, pour que notre douceur soit connue de tous les hommes. Alors là, quand j'écrivais ces notes, je me suis dit, mais il faudrait que je trouve une clé, un truc sympa à leur dire, pour dire, mais comment faire connaître notre douceur à l'autre? Je me dis, si je peux leur livrer une méthode, ça peut être bien. J'ai pas reçu de méthode à vous livrer, mais j'ai prié sur cette question en disant, mais voilà, comment faire finalement pour montrer de la douceur? Et la réponse que j'ai reçue dans ce moment de prière est assez m'a beaucoup touché. C'est que finalement, j'ai pas posé la bonne question. La question n'est pas comment faire pour montrer de ma douceur, mais la question qui m'est revenue en retour, c'est ai-je vraiment envie de faire connaître la douceur qui m'habite après m'être énervé avec quelqu'un? Après un conflit avec mon conjoint, est-ce que j'ai vraiment envie de lui montrer la douceur qui m'habite? Après m'être énervé avec mes enfants, est-ce que j'ai vraiment envie? Que votre douceur soit connue de tous les hommes, nous dit Paul. Et dans la suite, Paul nous livre une clé importante. On a eu des impératifs, on a de quoi travailler, mais maintenant Paul va parler de la piété qui doit nous accompagner. Finalement, on a parlé jusque-là d'attitude à adopter. Et Paul va plus loin, il parle aussi de la piété qui doit nous habiter. Et on lit au verset 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. » Et une belle promesse à la fin, « Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette piété à avoir nous montre, finalement, on ne résout pas forcément des conflits par nos propres forces. On n'avance pas par nos propres forces. Ce n'est pas lundi matin qu'on va se dire, mais ça y est, aujourd'hui je me réjouis dans le Seigneur, puis je vais montrer aux autres que je me réjouis. C'est dans la piété, dans un temps de prière, c'est en faisant connaître nos besoins à Dieu, en vivant cette communion avec lui, que nous pourrons puiser la force nécessaire. Parce que Dieu gère. Dieu gère même les situations qui nous dépassent. Même si on ne comprend pas tout, Dieu est au contrôle. Et on a lu la promesse dans ces versets. On a lu que la piété est récompensée. Récompensée par la paix de Dieu. Cette paix parfaite. Cette paix qui nous aide à rester focalisés sur Christ. C'est comme un cercle vertueux, si je peux dire ça comme ça. Dans la piété, on doit apprendre à lâcher prise, à prier, à s'en remettre à Dieu, à s'abandonner complètement, à lui remettre nos défis. Et Dieu procure la paix. Alors là, j'imagine que cet épître était lu dans l'église de Philippe, et puis là, Évodie et Saint-Tiche doivent se dire, ah, ça y est, la résolution de notre conflit passe peut-être par la prière. Effectivement, peut-être on pourrait prier ensemble pour avoir ce calme et cette paix. Et puis à la fin, les versets 8 et 9, on dirait que Paul, tout d'un coup, accélère un peu le train et résume l'ensemble de son message et reprend des impératifs. Mais là, il y en a beaucoup. Comme si tout le message de l'épître était condensé dans ces versets. Et je vous les lis, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable, sur tout ce qui est juste, sur tout ce qui est pur, sur tout ce qui est digne d'être aimé, sur tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange. Oui, ce que vous avez appris et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. À nouveau une promesse, à nouveau une promesse. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Chers amis, beaucoup de matière, hein. Mais ces vertus à chercher, ces qualités morales sont au cœur même de notre identité, sont au cœur même de notre identité en Christ. Et je crois profondément que ce qui fait la base de notre identité, ce qui nous nourrit, a un grand rôle à jouer dans la gestion de nos relations. Ce qui habite au fond de moi aura un grand rôle à jouer lorsqu'il y aura un conflit. Ce qui habite en moi va m'aider à gérer mes relations. Alors puissions-nous puiser à la source de Christ pour que des relations compliquées se transforment finalement en bénédiction. Amen. J'ai prié.